Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
On en parle. On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid.
Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est le cas, comme dirait Brandon. Brandon, si tu nous vois, bisous. Salut à tout le monde, à tous. Je vois qu'il y a du monde sur le live. Ah, j'ai oublié de mettre le live. Par contre, sur si on regarde, oui, j'ai pas mis le live sur la home de Frandroid. Alors, je vais demander aux autres de le faire comme ça. Hop. J'ai oublié avant de lancer. Hop. Voilà, voilà. Hop, j'ai fait la demande. J'espère que ça arrivera très prochainement. Alors, je vois qu'il y a des noms qui sont connus ici. Salut Jinx, salut Batix, salut Café Miroir, salut Lord Gibus, salut Snake, salut Bad Max, salut Batix. Toujours les mêmes, hein. Toujours au rendez-vous. On vous aime, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'on vous aime, entre autres. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, on a plein de choses à dire, notamment sur la Google I/O, évidemment, puisque c'était hier soir. En deux mots, pour la Google I/O ou le Fold? Parce que chair et bordure, effectivement, pour le Fold, c'est ça. Et en même temps, j'y reviendrai, mais il y a pas mal de trucs à dire sur le Galaxy Fold. Je trouve pas les bordures si problématiques. Mais on y reviendra. On va parler après du Fold. Et sinon, s'il fallait résumer la Google I/O en deux mots, ce serait intelligence artificielle. Vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez, la conférence d'Apple de, je crois que c'était l'iPhone 12, le lendemain de la conférence, voire quelques minutes après, il y avait une vidéo qui tournait où ils avaient pris toutes les récurrences du mot 5G pendant la conf, et du coup il y avait genre juste en boucle tous les responsables d'Apple qui répétaient 5G, mais genre pendant 5 minutes, tellement il y avait de fois l'occurrence 5G dans la conférence. Là, je pense que si on fait ça avec Hey Hi sur la conf d'hier, on peut lancer aujourd'hui, on n'est pas couché demain. Hein. Vraiment, ils n'ont pas arrêté. C'est intelligence artificielle, intelligence artificielle, intelligence artificielle. Parfois, 149 fois, bah voilà. 149 fois le mot intelligence artificielle. Merci Ben Max pour ce compte. Maître Capello, c'est parfait. Heureusement. Qu'est-ce que c'est qui pendouille? Excusez-moi, je remets en place le setup. Il y a un truc qui pendouille. Hop. Voilà. Batix, trop moche ce Fold. Fold des tablettes. Trop hâte de recevoir le Fold. Comment ça de recevoir le Fold, Bad Max? Il sort pas en France. T'as réussi à le commander? Le seul truc de ce Fold qui soit bien, c'est son format. Oui, et c'est déjà beaucoup de choses. Pour un téléphone, c'est beaucoup de choses. Je vois que ça module bien d'ailleurs, je suppose, enfin personne n'a râlé, donc je suppose que vous m'entendez bien. Bad Max, tu me mets un lien, pas de Pixel Fold en France, et bien vif Strasbourg et la frontière. Mais ils ont le Fold en Allemagne, et nous on l'a pas en France. Genre, ok, va falloir que j'appelle Google cet après-midi, pour comprendre, pour savoir, parce que autant avant, ils avaient une excuse. Il faut savoir que pendant très longtemps, les Pixel n'avaient que très peu de coloris en France. En général, on avait juste le noir. Et typiquement, on se faisait avoir pour les coloris un peu hors du commun, notamment le corail, le rouge-orangé là, qui n'était pas sorti, le sauge qui n'était pas sorti, donc c'est du vert, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça, c'était... En grande partie parce que, ben, en France, on avait l'obligation, enfin, les constructeurs avaient l'obligation d'intégrer exactement Jinx, l'excuse des écouteurs. Donc, en fait, avant, il y avait le kit main libre qui était obligatoire en France, et donc ça les obligeait à avoir une ligne de production différente juste pour la France. Et avoir une ligne de production différente, ça coûte cher. Donc, comme Google, c'est pas non plus des spécialistes du hardware. Eux, à la base, ils font essentiellement du software. Le hardware, ils font ça pour tester, pour créer leur écosystème, etc. Mais ils font pas leur bise avec, ils font pas leur blé avec. C'est pas là-dessus que, enfin, si demain il y a plus de pixels qui se vend, Google, ils iront très bien. Demain, s'il y a plus d'iPhone qui se vend, Apple, c'est pas la même chose. Donc voilà, ils avaient pas envie de payer cher pour juste quelques coloris en France, donc nous on avait le noir et puis basta. Sauf que depuis l'année dernière, cette obligation a été abolie. Donc, je sais pas si on peut dire abolir quand même, c'est un peu fort, mais bref, c'est plus obligatoire. Donc il n'y a plus aucune excuse, il pourrait le sortir, et c'est juste des questions à la limite de fréquence, mais en Allemagne je crois pas qu'ils aient des fréquences différentes, je pense notamment à la 5G, c'est plus le cas, c'était le cas il y a surtout au début de la 4G, et maintenant de toute façon tous les modems des téléphones sont compatibles avec toutes les fréquences. Abolition, en fait, on connaît, mais on fait ça avec une guillotine. Oui, effectivement, on connaît bien la guillotine en France. Parfait. Quand j'aurai fini mon café, peut-être que je retrouverai mes mots comme il faut. En vrai, ça peut être par rapport à la reprise des financements. C'est-à-dire, il y a une reprise particulière en Allemagne ? Tac, tac, tac. Alors, il y a un moins 429... ah oui, non, c'est la Pixel Watch, le moins 429, Pixel Watch offerte. Ça, franchement, c'est balèze quand même. Ils en ont tellement rien à foutre, Google, du hardware, qu'ils le donnent. Enfin, c'est leurs offres de précommande, tous les ans, elles sont insane. Rappelez-vous, sur le Pixel 5, ils offraient, c'était le Bose Headphone 700, je crois, ou le QC35-2, je crois que c'était le Headphone 700. Le téléphone coûtait 600 balles, et ils offraient un casque à 400 balles avec. C'était assez insane. Et là, c'est pareil, bon alors là, du coup, le téléphone coûte 1800 balles, c'est pas le même prix, mais ils offrent une montre à plus de 400 balles. QC35-2, je crois que c'était avec le Pixel 6, ça, Bad Max. Et que vraiment c'était le headphone 700 au début qu'ils offraient. Ah, le 700 c'est le Pixel 6. Ok, l'inverse. Bon, bah voilà. Le Bose offert aussi sur le Pixel 4a 5G. Ouais, non, mais c'est toutes leurs offres de précommande, elles sont totalement insane à chaque fois. Xiaomi aussi fait fort avec une télé. Ouais, mais pour le coup, je trouve ça un peu moins. Je trouve ça moins pertinent. Déjà parce que leur télé en question, elle est pas folle. Alors que un Bose Headphone 700, c'est un des meilleurs. Et en plus, t'achètes un smartphone, le casque, il y a du sens, il se connecte à ton smartphone, etc. La télé, en plus, c'est une petite télé. Enfin, si c'est pour la revente derrière, autant faire un chèque cadeau, quoi. Bref. Le Pixel 7 à 349€ chez Red pour les clients. 7A, pardon. Le Pixel 7A, déjà. Alors, on va voir. Est-ce que sur le store de Google. Hop, il y a tout ça. Alors, donc, le Pixel 7A, il a été annoncé à 509€. Pardon. Le Corail, il sort en France. Le bleu, je le trouve trop mignon. Il est trop mims. Hop, est-ce qu'il est dispo en océan ? Oui. Et voilà, et du coup, pour l'achat du téléphone à 500 balles, on a 100 balles offertes d'écouteurs. C'est plutôt cool. Mais c'est pas ça que je voulais voir, c'était du coup si ils ont répercuté les baisses de prix. Parce que le Pixel 6a reste au catalogue de Google. Et par contre, il s'est pris une grosse baisse de. Il a pas baissé de prix? Ou il était à 450? C'est pas ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit qu'il baisserait plus que ça. Est-ce qu'il va rebaisser? Je sais pas. Bon, en tout cas, on a le 6A à 409, le 5A à 509, et derrière, on a le Pixel 7 à 599. C'est pas évident de choisir. C'est pas évident de choisir, et c'est d'ailleurs pour ça que Greg vous a fait. Est-ce qu'il serait pas là-haut? Non. Alors, vous avez fait un super versus là. Pixel 7a versus Pixel 7 versus Pixel 6a. Quel smartphone Google choisir? Parce que là, vraiment, sur une fourchette de 200 balles, on a trois bons téléphones. Trois très bons téléphones. D'autant qu'en plus, bah, effectivement, il y a des réductions. Le Pixel 7a est à 349 selon Batix chez Red pour les clients, ce qui est un prix, mais incroyable. C'est vraiment, en plus, bah, du coup, enfin, je suppose que ils font pas payer derrière Red SFR. Hop, et que c'est juste l'achat sans engagement. Alors, est-ce qu'ils l'ont rajouté? Le 7A, bah, putain, le 7A avec les buds à 369 €. Ah, après reprise de votre ancien téléphone. Attention, il y a une douille. C'est SFR, fallait qu'il y ait une douille. C'est pas vous payez pas 369 € en fait. C'est juste qu'ils vous reprennent votre téléphone. Donc ils vous rachètent un truc. Tu payes avec ton téléphone. Donc tu le payes pas 369 €. 530 € le Pixel 7 sur Amazon. Ouais, non, mais de toute façon, le Pixel 7, il est souvent en promo. Et il est incroyable. Enfin, bah, pour le coup, moi j'utilise le Pro au quotidien. Et j'adore. Je suis fan de l'écosystème Pixel dans tous les cas. Et j'ai hâte d'ailleurs j'ai très hâte de voir la tablette. Étonnamment, alors que je suis pas trop tablette et que on sait très bien que l'iPad éclate tout à ce niveau-là. Mais je suis curieux de voir la tablette parce que justement j'ai envie que Google aille vraiment all-in au niveau des tablettes Android pour essayer d'aller taper Apple sur l'iPad. Et là, comme ils ont le Pixel Fold, ils ont présenté les deux vraiment conjointement. Ils ont dit, maintenant, après avoir présenté le smartphone, on va vous présenter les écrans plus grands. Et donc en fait, le Fold, il le présente pas comme un téléphone, il le présente comme une tablette pliable. Et ça change un peu la façon de penser le truc. Mais en tout cas, le Fold, enfin déjà la tablette, moi, elle me kink, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Alors, j'ai toujours mon côté, n'achetez jamais la première génération. Ça s'est vérifié avec absolument tout. N'achetez jamais la première génération, enfin sauf si vraiment vous voulez, enfin c'est bien d'acheter la première génération, mais il en faut, hein. Il faut des gens qui achètent la première génération pour remonter les problèmes et pour faire continuer la marque dans cette direction pour que ça puisse s'améliorer. Si personne achète le Pixel Fold, il y aura certainement pas de Pixel Fold 2. Mais si vous êtes un petit peu regardant sur vos achats, sur le côté écologique, sur votre portefeuille tout simplement, n'hésitez pas. Je suis pas sur le. Hop, et là j'ai perdu ma souris. Là, waouh, la souris fait n'importe quoi. Hop, là, ça a un peu trop zoomé. Hop, et voilà. Donc voilà, bon, moi je suis plus dans la team, n'achetez pas la première génération. Je vais remonter un petit peu le chat, j'ai vu qu'il y avait des commentaires qui demandaient notamment le Samsung Galaxy A54 bien. Alors oui, le Galaxy A54 est très bien. Titouan l'a noté 8 ou 9, je sais plus. 9, ouais, c'est très très bon téléphone, sachant que c'est un des points très importants, je trouve, à noter sur le A54, c'est que le Samsung propose 4 ans de mise à jour jusque sur son milieu de gamme. Ah bah d'ailleurs, c'est un des points forts. 2 jours d'autonomie sans forcer, donc ça c'est vraiment très cool. Bon, après faut savoir que il recharge pas très vite, que le chargeur est pas fourni. Et c'est surtout au niveau de la photo, je trouve que, parce qu'en plus j'ai regardé des photos hier, justement, Blackwater, donc très bon bouquin pour ceux qui aiment. Moi j'ai bien aimé l'ambiance, ça manque un peu de rebondissement, en tout cas dans le premier, moi j'ai lu que le premier, mais très chouette. Bref, ce que je voulais vous montrer, alors déjà c'est le chat de Titouan, voilà, on aime les chats, il est trop mignon, cette petite salade de pâtes là, bref. Et voilà, c'est photo en, c'est quoi, c'est en mode nuit ou je sais pas si c'est en mode nuit, mais en tout cas c'est photo de nuit pour un téléphone à 500 balles, c'est vraiment très chouette. Est-ce que je vous, non mais en fait depuis tout à l'heure vous me le dites pas, je vous parle, je vous montre des trucs à mon écran et en fait il n'y a pas l'écran, voilà. C'est peut-être mieux si vous voyez mon écran quand je vous montre quelque chose à l'écran. On va faire comme ça. Et j'ai peut-être me refaire un autre café entre temps. Voilà. Il manque quand même pas mal d'objets d'écosystème. L'écosystème Samsung reste le meilleur. Alors c'est vrai que quand tu sors de l'écosystème Apple, il n'y a pas grand chose d'autre que Samsung. Ou alors Google, mais avec un Chromebook. C'est pas foufou. Alors que Samsung en plus, c'est toujours les premiers à faire des partenariats à droite à gauche pour des trucs, genre typiquement à Paris, c'était les premiers à avoir la bêta de la RATP pour pouvoir passer le métro juste avec son téléphone. Il fallait un téléphone Samsung, que un téléphone Samsung. Alors, bonjour à toute l'équipe, j'avais une question, la fin des amplis Home Cinema remplacés par des installs sans fil. J'ai pas compris la question, Martia. La fin des amplis Home Cinema, bah de toute façon, enfin, même dans les installs sans fil, t'as besoin d'un ampli. Enfin, après, sinon, t'as de la barre de son, t'as plein de trucs, mais après, moi je pense que je sais pas ce que t'appelles les installs sans fil, parce que tu peux mettre des enceintes sans fil, notamment derrière, ce qui est quand même très pratique parce que. Parce que tirer des câbles dans un salon, c'est pas toujours cool, suivant la disposition de ton salon, etc. Mais ça veut pas dire que c'est forcément la fin des amplis. Et t'auras toujours en général, t'as une meilleure qualité avec un ampli qu'avec une install sans fil. Alors, le site parle aussi d'audio. Perso, j'ai pas de smartphone. Si on venait quand même, pardon, je me suis égaré. Hein, là, ça fait un petit moment que je discute. Je me suis un petit peu égaré. On va prendre le résumé des annonces et on va surtout parler du Pixel Fold parce que je vous en ai parlé à l'instant. Mais voilà tout ce qui a été annoncé hier sur la Google I/O. Pour faire un petit topo. Donc, on a Google Maps, une nouvelle vue ultra immersive va débarquer, l'effet waouh est réel. Là, franchement, alors, pour le coup, c'est incroyable. La vue, ça, c'est Google Maps. C'est, on se croirait, je sais pas, dans une vue zoomée, dans City Skylines ou un jeu dans le genre. C'est, je trouve ça incroyable ce qu'ils ont fait sur Google Maps, avec les conditions météo, le trafic, c'est assez fou. On croirait presque que c'est du temps réel, que si vous levez la tête et que vous faites coucou, on va vous voir à l'écran, quoi. C'est dingo. Alors après, est-ce que c'est réellement utile? Arnaud, je t'aime bien, mais t'es un peu au milieu de mon écran. Est-ce que c'est utile? Alors moi, je suis pas sûr. Je me demande si ça crée pas de la confusion. D'ailleurs, vous, je sais pas, mais moi sur Google Maps, j'utilise que la vue en mode plan, pas en mode satellite. Genre typiquement ça, pour moi, je trouve ça un peu galère à lire. Mais en tout cas, c'est incroyable en termes de qualité. Je dis pas que c'est utile, mais c'est très beau. Voilà. Salut avec Similitech, je passe au coup de vent, je peux pas rester ce matin malheureusement. C'est déjà très gentil d'être passé, merci. Balkmog aussi, bonjour, j'avais pas vu. Et ah oui, tu répondais à Beacon sur le A54. Ouais, on est d'accord, Vicola Chips, ça complexifie les lectures. Moi je suis plutôt le contraire, Google Maps en mode 7 plutôt qu'en vue plan. Ah, ok. Slurp, bruit de goût. Oui. Alors, avec Magic Editor, Google Photos va imaginer ce qui se cache derrière vos photos. Alors ça, c'est pareil. S'il y a le coup du banc, c'était assez incroyable. Voilà. Là, il faut voir que... Donc, on connaissait Magic Eraser. Donc, c'était la gomme magique des pixels qui permet d'effacer un élément en arrière-plan qui ne nous plaît pas. Ça, en vrai, il n'y a rien de très magique. Photoshop le fait depuis des années. C'est juste prendre les pixels qui sont à côté, interposer, et après avec plus ou moins d'efficacité, d'intelligence artificielle, etc. Mais alors là, ça va encore plus loin, vraiment. Le délire, c'est d'inventer une partie de la photo. Là, en l'occurrence, vous avez une photo avec un petit bout de chou qui fête son anniversaire sur un banc et plein de ballons dans la main. Faites gaffe, il va s'envoler. Sauf que bah, la personne qui a cadré ça apparemment a bu trop de champagne et a cadré un petit peu de côté. Donc c'est dommage, les ballons sont coupés. Et ben, que fait Google ? Vous pouvez prendre, vous avez juste à cliquer, ça sélectionne tout ce qu'il y a à l'avant-plan, donc le banc, le gamin et les ballons. Vous déplacez... Ah, mes flèches ne fonctionnent pas, je vais utiliser la souris. Vous déplacez le truc et pouf ! Il vous recrée. Alors, on voit les ballons, ils sont un peu carrés. C'est pas ultra parfait, mais c'est fou. C'est assez foufou ce que nous propose Google. Et ça arrive, je crois, dans les prochaines semaines sur certains pixels. Donc, à mon avis, c'est les pixels qui ont un Tensor G2. Donc, les pixels 7, etc. Alors, mais j'ai fait beaucoup de courses d'orientation et j'ai l'habitude de prendre des repères dans un paysage. Ah oui, parce que t'es en mode sat, ok. Ça peut... Effectivement, dans ce cas-là, ça peut être utile, mais moi je trouve que c'est moins lisible en tout cas. Alors, ensuite, on a Google Bard, voilà, et là, on est rentré dans un tunnel d'IA, enfin, même s'il parlait déjà de l'IA avant ça. Donc, on reviendra peut-être après sur l'IA générative, sur tout ce qui est Google Bard. Alors, on parlera aussi de des changements au niveau du moteur de recherche et de ce que ça implique. Moi j'aime bien, je suis plutôt content de ce qu'ils ont présenté. Donc il y a Palm 2, leur modèle d'intelligence artificielle, donc c'est d'intelligence artificielle générative, c'est ce qui est derrière Bard. Mais on va parler du Fold, le Pixel Fold qui a été dévoilé. Pixel Zeta, je sais pas si vous voulez revenir dessus. Clairement, donc il y a Titouan qui l'a testé, c'est un pixel quasi pixel perfect. donc c'est vraiment quasi parfait pour son prix à 500 balles et surtout quand il sera en promo un peu partout, parce qu'il va, à mon avis, vous allez vite pouvoir le trouver beaucoup moins cher. Il est assez incroyable. Et un écran 90Hz, les nouveaux capteurs photo, et le petit format qui tient dans la main, c'est trop mignon, il est trop chouette. Après, bon, il reste toujours des problèmes, donc l'autonomie qui est juste moyenne, après ça devrait quand même le faire, c'est pas catastrophique non plus. La charge lente, mais ça c'est sur tous les pixels, et les méga bordures. C'est vrai que par rapport à un Galaxy A54, c'est pas fou, mais il a une partie photo digne des pixels, et ça, hop, on revoit le chat de Titouan. Regardez la qualité du détail des poils, c'est assez fou pour un téléphone à 500 balles. Si on va chercher, c'est surtout les photos de nuit qui vont nous intéresser, et les portraits, là on voit le découpage qui est plutôt pas mal des cheveux de Kassim, et les photos de nuit, hop, voilà. Là on a une petite idée de la qualité pixel qui est... Regarde cette coupe de cheveux, incroyable. Le beau gosse. Ouh. Sur Android, quel que soit le produit, tablette ou smartphone, Samsung demeure le king. Alors tablette, oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant j'attends de tester la Pixel Tab. Sur smartphone, ça dépend des années. Je suis d'accord avec toi cette année que le Galaxy S23 Ultra, aujourd'hui, pour moi, c'est le smartphone de l'année. Pour l'année dernière, par exemple, ils sont vraiment foirés avec leur Exynos. Et l'année d'avant, L'année d'avant, le S21 Ultra, je ne me rappelle plus. Il était pas mal, mais il me semble qu'il y avait, du Oppo en face, le Find X3 Pro, qui pour moi était un peu plus sympa. Comme je disais hier, le problème des Fold, peu importe la marque, c'est que c'est pas du tout adapté à la vidéo. Ça fout des bandes tellement grosses qu'au final, c'est la vidéo. Et de la... Alors justement, Jinx, justement, alors... Hop, voilà pour le Pixel 7a, je vous invite à aller lire le test si il vous intéresse, je vous le mets ici dans le chat, si vous voulez voir la conclusion, pourquoi il a eu 8 sur 10 et pas 9, il faut voir que c'est surtout par rapport à son prix et au prix des autres Pixels, grosso modo, si vous êtes prêt à mettre 500 balles dans un Pixel 7a, pourquoi pas mettre 600 dans un Pixel 7? C'est un peu la question. Voilà. Mais sinon, ça reste un très très bon téléphone. Moi, ce dont je voulais vous parler, et ça fait une heure maintenant que je tourne autour du pot, c'est le Pixel Fold, qui est assez particulier. Donc, Omar est à Mountain View actuellement. Il était sur place à la Google I.O. On l'a envoyé en Californie. Et il a pu tester le Pixel Fold. Je n'ai pas encore lu sa prise en main. Ses premières impressions. J'ai lu que l'article d'officialisation et j'ai vu évidemment tout le bousin, mais je n'ai pas encore lu sa prise en main, donc on va la lire ensemble. Le prix est trop proche du Pixel 7 normal. Tito en a parlé d'ailleurs. Oui, bah c'est ça, Wendigo. Pourquoi le Fold ne sort pas en France? Bah c'est une bonne question, Café Miroir. Jusque-là, on pensait que c'était pour des questions de quantité de dalles pliables, de coûts, etc. Et qu'il sortirait que aux États-Unis. Mais en fait, vu qu'il sort aussi en Allemagne, il n'y a aucune raison, à part que Google ne nous aime pas. Voilà, thread test du Fold, Captain de Fold. Test. Voilà, j'ai perdu ma souris. Hop. Comment ça, un test MIFSPEC, thread. Ah oui, prise en main du coup. Ok. Moi je dis, vive le turfu, on revient en écran 4 tiers d'il y a 30 ans. Mais justement, c'est pas tant que ça. Le ratio. Alors. Il y a un truc qui est important à savoir, c'est que effectivement, il y a un gros souci sur tous ces folds, les smartphones pliables, c'est que en fait, ils sont pensés pour de la consommation de contenu type page web, mais pas forcément sur de la consommation de contenu type vidéo. Donc, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, sur Twitch ou Netflix, bah en fait, alors je sais plus qui le disait dans le chat tout à l'heure, mais je suis d'accord. En fait, l'écran, enfin la partie affichée en 16:9, vu que l'écran n'est pas en 16:9, ça affiche d'énormes barres noires et on se retrouve avec une taille affichée qui est pas forcément plus grande que celle qu'on pourrait avoir sur un smartphone normal tenu comme ça. Donc et c'est encore plus débile sur le Fold, parce qu'en fait, le Galaxy Fold, pardon, c'est que le Galaxy Fold, une fois que vous l'ouvrez, si vous voulez profiter au maximum de la largeur de l'écran pour pouvoir regarder une vidéo, il faut la tourner, parce que le ratio n'est pas bon. Et là, l'écran, la partie horizontale du Fold, du Pixel Fold, faut que j'arrête de dire Fold tout seul parce que du coup c'est plus ça suffit plus. Donc la partie horizontale du Pixel Fold est plus grande que la partie verticale, ce qui fait que bah il y a pas besoin de le tourner déjà. Ça c'est un premier bon point. Tu le tournes comme un tel normal, PDR. Bah oui, il faut le tourner, mais du coup, en fait, t'as déjà fait un geste qui est de l'ouvrir pour voir ta vidéo en grand. Et là, en plus, il faut le tourner. Donc, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, quoi. Les premiers folds de Samsung, plus de 2000 euros, même si c'est une excuse en rien. L'écran interne n'est pas non plus pensé pour les vidéos en format vertical. Alors, il n'est pas pensé, mais du coup, c'est quand même très confortable parce que l'écran est grand. En tout cas sur un Galaxy Fold, j'ai pas essayé sur les Pixels hein, évidemment, je sais pas si Omar en a parlé, mais sur un Galaxy Fold, les vidéos verticales c'est quand même très 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 confortable. Alors, Regardons un peu ce que dit Omar sur le Pixel Fold. Nous avons pris en main le Pixel Fold, le premier smartphone pliant de Google. Un smartphone très mignon, de belle qualité, mais aussi quelques bémols notables. Voici nos premières impressions. Moi, pour donner mon impression à chaud sur le téléphone, que je n'ai pas eu en main, voilà, pour savoir. Déjà, je m'attendais à ce qu'on voit un petit peu moins la pliure, puisqu'ils n'ont pas énormément de stock, enfin ils ne vont pas en vendre énormément, donc on pouvait s'attendre à avoir vraiment une charnière goutte d'eau qui permette de voir un petit peu moins la pliure sur l'écran. C'est vrai qu'il y a des grosses bordures à l'intérieur, notamment pour pouvoir mettre l'appareil photo, là on voit le petit objectif, contrairement à Samsung qui l'a mis sous l'écran, parce qu'ils estiment que bah, de toute façon il y a déjà plein d'appareils photo au dos du téléphone, et en fait ils voient l'appareil comme un téléphone, Google le voit comme une tablette. Et un des usages principaux d'une tablette, et d'ailleurs ils ont appuyé dessus quand ils ont présenté la Pixel Tab, c'est de faire de la visio. Genre vraiment, vous prenez la tablette et... alors beaucoup, enfin typiquement les grands-parents adorent faire de la visio pour voir leurs petits-enfants. Alors c'est peut-être un peu généraliste comme truc, mais en tout cas c'est beaucoup marketé comme tel, donc je suppose que ils l'ont étudié. Et avoir un appareil photo qui est pas sous l'écran à l'intérieur, ça prend tout son sens quand on garde ça en tête, parce que avoir une vidéo de moins bonne qualité sur une tablette, c'est un peu plus dérangeant que sur un téléphone, sur un truc secondaire. Voilà. Et sinon, bah moi, j'adore le format, j'adore les pixels, j'adore l'expérience. J'ai hâte de voir comment ils vont adapter tout l'écosystème Android à ces grands écrans et aux smartphones pliables. J'ai vraiment hâte d'avoir le Fold et la tablette en main. Alors, pas de risque d'usure prématurée des charnières permettant d'assembler les deux écrans. Alors pour la charnière, ils ont annoncé que ils font, alors comme l'a dit Rick Osterlo hier sur scène, on pense nos téléphones pour durer. Alors si c'était le cas déjà, faites 4 ans de mise à jour, sortez-vous les doigts, Google, parce que vraiment Samsung le fait, donc vous pouvez le faire. Mais en tout cas, techniquement, ils font leur téléphone pour durer. C'est un revêtement Gorilla Glass Victus, c'est la charnière, ils avaient qu'à mettre un poinçon. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre un poisson après... un poinçon, pas un poisson. Après, il faut voir sur un écran pliable si c'est facile, si ça coûte beaucoup plus cher, etc. Il y a toute la partie technique qui est importante. Et qu'est-ce que je disais avant ça? Oui, et ils ont dit que la charnière, ils l'ont testée sur des centaines de milliers de pliures, et qu'ils l'ont pensée pour résister sur de nombreuses années. Alors Samsung avait dit la même chose aussi. Nous on a un petit souci avec celui de la rédac, enfin Greg surtout, je sais pas si vous en avez déjà parlé en live, mais enfin, il a un problème de charnière sur son Galaxy Fold 4 je crois, ou 3, je sais plus, j'ai un doute. Et pour revenir aux bordures, en fait moi ça me choque pas énormément qu'il y ait des grosses bordures à l'intérieur, parce que c'est juste une tablette en fait, et à part... Quand on pense que c'est une tablette pliable, bah les bordures ne choquent moins que sur un téléphone. Et si les bordures sont correctes à l'extérieur sur la partie téléphone, moi ça me convient. Ça me gêne pas d'avoir des grosses bordures à l'intérieur. Alors je me suis pris... après, faut pas non plus exagérer. Hein, quand Samsung arrivera à faire des bordures qui sont totalement invisibles et que Google fera encore des grosses bordures comme ils avaient fait sur le Pixel 4 typiquement, moi ça me gênait pas tant que ça les bordures sur le Pixel 4. Après c'est vrai qu'il était moche, mais au quotidien c'était pas gênant. Et là je pense qu'on oublie très très vite les bordures. C'est des grosses bordures, mais elles sont belles, elles ont une âme, donc ça me dérange pas du tout. Ouais, bon, puis en plus, le fait de les avoir fait symétriques sur chaque... enfin, celles du haut et du bas sont symétriques, et celles de droite et de gauche sont symétriques. Voilà. J'espère qu'ils n'ont pas mis la charnière avant les bœufs. mais on n'est plus en avril pour le poinçon d'avril. Ouais, mais vous êtes on fire aujourd'hui. Non mais les gars, arrêtez, on n'est pas en 2010 pour avoir des bordures, laissez-nous des tels sans âme, sans bordure. Mais encore une fois, c'est pas un téléphone, c'est une tablette. Et voilà, essaye de trouver une tablette qui a des bords beaucoup plus fins que ça. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté, le Pixel Fold a été dévoilé à la Google I.O. 2023. Il s'agit d'une des grandes stars de l'événement et pour cause, c'est le premier smartphone pliant de la marque. Invité par Google, nous sommes présents à Mountain View pour couvrir l'I.O. et nous avons donc eu l'occasion de prendre en main le Pixel Fold. Un premier essai transformé ? Oui et non. La bordure peut être utile en tablette en vrai. Alors oui, par contre, la bordure droite-gauche surtout, à voir ce que ça donne. Même si l'appareil ne sort pas en France... Ça, vraiment, j'ai les boules maintenant que je sais qu'il sort en Allemagne. On va peut-être le commander. Même si l'appareil ne sort pas en France, nous avons jugé pertinent de vous livrer un premier avis sur un produit qui pourrait avoir un rôle important à jouer sur le marché. Et c'est surtout ça, en fait, l'intérêt du Pixel Fold. C'est pas tant le produit en lui-même, c'est ce qu'il représente sur le marché. Et ça, c'est cool. Mais on en reparlera et je suppose que Omar en parle un petit peu. Le format mignon. Faisons preuve de transparence. Avant de lire les lignes qui suivent, sachez que celui qui les a écrits a déjà été séduit par le format de l'Oppo Find N2. Et donc, c'est sans aucune surprise que le Google Pixel Fold a également su charmer l'auteur de cet article, Omar, qui va immédiatement cesser de parler de lui à la troisième personne. Ce serait bien aussi à la rédaction que tu fasses ça. Enfin, que tu arrêtes de parler à la troisième personne. Mais oui, du coup, le Pixel Fold reprend le format du Oppo Find N2 plutôt que le format du Galaxy Fold 4, car Omar Hari. Je cherche le jeu de mots. Je suis peut-être trop fatigué ou j'ai pas la ref. Les Pixel Fold et Oppo Find N2 ont les mêmes formats avec un écran extérieur qui est plutôt Omar Sharif vite fait Lord Jibus. L'écran extérieur est plutôt normal, ça se rapproche du 16:9 qu'on a traditionnellement, et l'écran intérieur est plus large que haut, contrairement au Pixel Fold, au Galaxy Fold, où l'écran extérieur est très étroit, un peu moins maintenant, mais est étroit, ce qui est un petit peu gênant pour regarder du contenu vertical, justement, des Reels sur Instagram, du TikTok, etc. En fait, ça va couper un petit peu la vidéo. Et à l'intérieur, on se retrouve avec un écran qui est plus grand que large. Donc pour les vidéos, comme je vous ai dit, il faut tourner le Fold. C'est pas super agréable. Comme son homologue d'Oppo, le Google Pixel Fold cherche un maximum de compacité dans les limites de ce que l'on peut faire avec un smartphone pliable. La sensation en main est très réussie. Dans sa forme repliée, le téléphone a des dimensions de 139,7, 79,5 par 12,1 mm. C'est petit et c'est tout mignon. On en vient même à le trouver presque léger alors que la bête pèse mine de rien 283 grammes, ce qui commence à faire beaucoup pour un téléphone. Moi j'ai du mal avec les téléphones de plus de 200 grammes déjà, alors 283 au quotidien, après du coup c'est fait pour être porté à deux mains. Pas trop compliqué de mettre une coque de protection, combien d'écrans en tout ? Combien d'écrans ? 2, un à l'extérieur, un pliable à l'intérieur. Pour les coques de protection, il y en a pour les Galaxy Fold, je suppose qu'il y en aura pour les Pixel Fold, ce sera prévu et pensé pour. Puis tenir une tablette avec un écran borderless, c'est vraiment pas pratique. On est d'accord, YoWave. Ils ont rien dit sur la vitre de l'objectif photo. Sur la vitre de l'objectif photo ? Celle qui est là ? Je sais pas. Bref. Je vois pas trop ce qu'il y a à dire sur la vitre de l'objectif. Snake, n'hésite pas à détailler. Tu peux pas demander à un tel aussi grand de peser 100 grammes. Ah oui, non, mais oui, clairement, on les excuse pour le poids. Je leur demande pas de faire un téléphone à 100 grammes. Je dis juste que moi, dans mon quotidien, en fait, je suis pas fan des smartphones pliables parce que, justement, dans mon quotidien de tous les jours, quand je vais bosser, etc., j'ai pas besoin d'un grand écran. Et le grand écran, je vais le kiffer quand je regarde des vidéos, donc ça va plutôt être le week-end ou quand je lis des articles, le week-end, le soir. Et en fait, bah, ça c'est plutôt quand je suis chez moi, même si je sors et que je vais chez quelqu'un, je sais pas, j'ai pas envie de passer ma soirée à montrer des vidéos YouTube, donc même sur le téléphone ça suffit. Et si je veux un grand écran, bah en fait j'ai une tablette chez moi. Donc ça me tente pas trop d'avoir la contrainte d'avoir un téléphone de 283 grammes dans la poche et plutôt épais, hein, 12,1 mm, alors que j'en ai pas forcément l'utilité. Mais peut-être que je changerai d'avis un jour. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, paraît-il. On en revient donc à le trouver presque léger. Quand on ouvre le Pixel Fold comme un livre, pour en profiter en mode tablette, les dimensions restent très contenues avec une épaisseur qui descend même sous les 6 mm. Voilà, donc il est quand même très fin. Je pense qu'il doit être plus fin que mon Pixel 7 Pro si on prend juste la moitié du téléphone. Quel traitement ils ont fait sur cette vitre ? Bonne question. Ils ont dit que le dos c'était du Victus. À mon avis, c'est minimum du Victus. Et souvent sur les objectifs eux-mêmes, c'est du verre de saphir. Alors ça dépend des marques, ça dépend surtout Apple qui fait ça, mais qui est encore plus résistant pour éviter les rayures sur les objectifs. À ce niveau-là, c'est presque un sans faute, d'autant plus que l'écran en façade de 5,8 pouces au ratio 17,4 neuvième est assez large pour être confortable et assez petit pour s'utiliser sans peine à une seule main. Au dos, l'ADN Pixel est bel et bien là et fait son petit effet pour celles et ceux qui apprécient ce design. À titre personnel, je préfère le look de ce Fold avec sa barre photo qui n'occupe pas toute la largeur. Je trouve cela un peu plus subtil. À vrai dire, je sais pas. Donc ça, c'est le Pixel 7 Pro. Et vous voyez que le bloc photo va jusqu'au bord et il est sale du coup, là. Il y avait des saletés dans ma coque. Le bloc photo va jusqu'à enrouler les bords du téléphone, contrairement à où on a un bloc photo qui est sur la largeur mais qui ne va pas jusqu'au bord du téléphone. J'aimerais bien l'avoir en main pour voir ce que ça donne. J'aime bien ce côté-là, et en même temps j'aime bien le Pixel 7 Pro. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous préférez que ça aille tout au bout ou que ça reste comme ça. Dans les deux cas, c'est vraiment l'ADN Pixel, enfin il y a que Google qui fait comme ça, et je trouve ça très beau dans les deux cas. Sur un Fold, ils peuvent pas faire englober la tranche du téléphone vu qu'il y a la charnière. Petite ombre au tableau, la luminosité des deux écrans m'a paru un peu flébarde. Le Pixel Fold promet un pic à 1550 nits, ce qui est beaucoup en soi, hein, déjà. Même vraiment beaucoup. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de téléphones qui font beaucoup mieux. On a l'iPhone qui monte à 2000, si je dis pas de bêtises. Le S23 Ultra, je crois qu'en pic, il monte même à 2002. L'année dernière, c'était 1750, un truc comme ça. Donc 1550.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
50 nits, 1550 nits, c'est beaucoup. Mais pendant ma prise en main qui s'est faite sous une lumière naturelle, j'ai eu parfois dû un peu plisser les yeux pour distinguer ce qui était affiché, malgré une jauge de luminosité poussée à fond les ballons. Rien à redire cependant, alors il faut voir que il y a deux choses à prendre en compte quand on regarde la luminosité, et d'ailleurs sur le site d'Apple, typiquement, ils le mettent, c'est qu'en fait il y a la luminosité du téléphone qu'on peut... pas de mal... il est très blanc ce site. Je peux juste avoir la fiche technique s'il vous plaît. caractéristiques. Putain, la souris est lente. Hop. Pourquoi il met 1200? Ah non, c'est que le pro. Je peux avoir un pro, s'il vous plaît? Il est devenu bordélique, leur site. Ils l'ont refait, là, récemment, non? Il me semblait que c'était plus simple. Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs luminosités. Et il faut voir quelle est la luminosité que Google promet. Donc, en fait, il y a la luminosité maximale, qui est la luminosité que vous allez avoir la plupart du temps. La luminosité de pointe, donc ça qui va s'activer quand vous regardez des vidéos en HDR, tout contenu qui est en HDR. Donc ça va permettre d'avoir des endroits un peu plus vifs. Et la luminosité de pointe que Apple appelle en extérieur, qui est sur l'écran OLED quand vous mettez la luminosité automatique, qui va gérer en fonction de la luminosité externe. Et plus vous lui balancez de lumière dans la tronche, et plus du coup il va pousser la luminosité de l'écran. Donc voilà, pardon, je vous ai dit des bêtises, c'était pas 2200, c'est 2000 nits pour l'iPhone 14 Pro, au maximum, en extérieur. Et il faut voir si c'est 1550 nits, c'est en HDR, ou si c'est vraiment en pointe comme le fait Apple. Ça change un petit peu le résultat. Et après, il faut voir si Omar l'a utilisé en luminosité adaptative, parce que typiquement, moi, sur mon Pixel 7 Pro, de temps en temps, je sais pas pourquoi, il y a la luminosité adaptative qui vire, et je me dis, putain, mais c'est sombre, là, c'est chiant. Et je le réactive, et pouf, là, ça remonte tout seul. Donc peut-être que c'était pas activé, et qu'Omar a pas fait attention, ce qui pourrait expliquer ce petit défaut qu'il a vu. Alors, malgré une jauge de luminosité poussée à fond les ballons, rien à redire cependant sur le mode 120 Hz dont jouissent les deux dalles. Il participe vraiment à l'impression de fluidité sur lequel je reviendrai plus tard. Nous avons commencé par jeter des fleurs. Nous avons commencé par jeter des fleurs au Pixel Fold. Il est temps de lui jeter des cailloux aussi, métaphoriquement, 100 ans. Oui, parce que sinon, chez Google, ils n'auraient pas été très contents que Omar jette des pierres sur leur téléphone de test. Bien que la protection Gorilla Glass Victus dont se nippe l'écran externe pourrait sans doute résister à un tel assaut. Voilà, donc pour l'écran externe, c'est du Gorilla Glass Victus. Il me semble que c'est sur tout le dos, d'ailleurs. Les deux premiers reproches qui me viennent en tête concerne la dalle interne, celle qui se plie et se déplie. Tout d'abord, après l'émerveillement des premières minutes d'utilisation, il devient presque impossible de ne pas remarquer les très larges bordures noires qui encadrent la zone d'affichage. On en a longuement parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Alors oui, elles existent. Est-ce qu'elles sont gênantes? Après, lui, il a eu en main, moi non. Voilà. Donc. Pour un smartphone vendu à 1900€ en Allemagne, 1800$ aux États-Unis, c'est un peu dur à avaler. Cela nuit à la bonne immersion, mais également à l'aspect raffiné auquel aurait pu prétendre le Pixel Fold. Là-dessus, par contre, je suis d'accord. Effectivement, le côté raffinement, ça jette un peu un froid. Très marrant de mettre la vidéo Mia de Zou, donc qui est la première vidéo uploadée sur YouTube. En 2023, c'est drôle, je trouve. Sur un téléphone Google. Bref. Le pli au milieu de l'écran constitue le deuxième bémol que je voulais aborder. La dalle de 7. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que vraiment le pli, on le voit beaucoup pour un téléphone comme ça. Genre, typiquement sur l'Oppo Find N2, ça se voit bien moins. Sur les photos, en tout cas, encore une fois, je ne l'ai pas eu en main le Fold 2, le Pixel Fold. Donc c'est un peu difficile de juger. Mais de ce que je vois sur les photos, j'ai le nez pour ça. Il aurait pu jeter des pierres en pensant que c'est le même verre que le Tesla Cybertruck, effectivement, très bel exemple d'Elon Musk qui avait pété avec des boules de pétanque son Cybertruck qui était soi-disant incassable. Le problème de ce téléphone, c'est pas forcément le prix, c'est surtout qu'il n'aura que 3 ans de mise à jour logicielle à ce prix. Alors oui, ce qui est gênant surtout, c'est que comme c'est un téléphone de début d'année, 3 mises à jour logicielles, ça comprend Android 14 qui arrive dans 2 mois. Ouais, du coup, c'est encore plus problématique. À moins que lui, du coup, comme il est arrivé en début d'année, bah non, parce qu'il a un Tensor G2, donc ils vont le tenir à jour comme les Pixel 7 et pas comme les Pixel 8. Donc effectivement, il n'aura que 3 ans de mise à jour. Et en vrai, c'est 3 mises à jour majeures, donc 2 ans et demi de mise à jour. Ce qui fait très peu pour Google. Et effectivement, ça, c'est un problème. Le pli au milieu de l'écran constitue le deuxième bémol. La dalle de 7,6 pouces est traversée verticalement au centre d'une ligne creuse. Cela m'a semblé moins marqué que sur un Galaxy Z Fold 4, mais tout de même assez pour ne pas passer inaperçu. Alors sur le Z Fold 5, normalement, la charnière se permettra d'avoir moins de pliure. Enfin, que la pliure soit moins visible, d'après les rumeurs. On la voit et on la sent au toucher. Bref, de petites approximations qui font froncer les sourcils. Un délice de fluidité. Repassons désormais sur des points positifs, car je dois vous parler de l'interface. C'est vraiment tout bête, mais l'expérience logicielle est vraiment plaisante. Et ça, c'est pour moi ce qui est le plus important, en fait. Beaucoup plus que les bordures, beaucoup plus que le pli, beaucoup plus, j'allais dire que le ratio, mais non, le ratio est quand même très important. Mais l'interface est... La manière dont est utilisée la partie pliable, pour moi, c'est super important parce que c'est ça qui va conditionner les usages. C'est comme ça qu'Apple a réussi à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est qu'ils ont créé un logiciel qui est pensé pour les usages parfaitement et qui va donner une véritable raison à la technologie d'exister. Et pas l'inverse. On fait pas de la technologie juste parce que c'est possible. Ils font de la technologie parce que ça apporte quelque chose. Et je trouve que c'est très 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 important d'accompagner ce gap technologique qu'est l'écran pliable par des améliorations logicielles qui vont rendre ça vraiment utile au quotidien. Et c'est ce qu'a fait Google. En partie, d'ailleurs c'est issu du travail parce qu'il faut voir que Samsung et Google travaillent ensemble depuis le début sur les smartphones pliables, enfin depuis Android 12L et donc la sortie du Galaxy Z Fold 2 si je dis pas de bêtises, voire du premier, peut-être même du premier, et ils ont pensé un petit peu justement tous ces usages du smartphone pliable. Mais on lit et après on en parle. Repassons désormais sur les points positifs car je dois vous parler de l'interface. C'est vraiment tout bête mais l'expérience logicielle est vraiment plaisante. Que ce soit pour ouvrir deux apps en même temps, afficher la barre de tâches ou glisser-déposer un fichier d'une app à l'autre. Les gestes viennent naturellement. En résulte une fluidité des plus appréciables à l'usage. Le mode tabletop, donc c'est ça, c'est grosso modo, c'est on plie le téléphone et la partie haute de l'écran affiche un contenu tandis que la partie basse affiche autre chose. Donc là, en l'occurrence, sur YouTube, la partie haute affiche la vidéo et la partie basse affiche les commentaires ou la gestion de la vidéo, donc pause, play, avancer, retour, etc. Et donc ça existe chez Samsung sous le nom de Flex Mode, mais c'est pas forcément... Si, j'utilise. Donc le mode tabletop fonctionne très bien pour un usage du Pixel Fold en position assise. On notera au passage une charnière qui ne fait pas trop de résistance quand on la manipule sans pour autant être trop lâche. Reste à savoir à quel rythme elle s'use. On apprécie les notifications et les paramètres rapides scindés en deux colonnes quand on abaisse le panneau ou encore la possibilité de se prendre en selfie avec la caméra arrière tout en ayant un retour via l'écran externe. Rien de bien nouveau par rapport à la concurrence, mais ça a le mérite d'être très bien exécuté. Pour le coup, sur la partie logicielle, à part quelques petits bugs de temps en temps, on va pas se le cacher, et le fait que chaque fois qu'ils font une mise à jour, ça pète tout, chez Google, ils ont quand même le goût de la chose bien faite, comme dirait Edouard Baird. Google est allé chercher un petit brin d'originalité dans une fonction de traduction exploitant les deux écrans du Pixel Fold simultanément. Vous voyez les propos dans les deux langues sur le grand écran, tandis que votre interlocuteur peut lire les phrases dans sa langue maternelle sur la dalle externe. Astucieux. Donc en fait, vous tenez le téléphone entre vous et la personne avec qui vous parlez, et en fait, ça vous fait la traduction. Pepe Garcia au top de l'audio, des TV, du gaming. Coucou, c'est Pepe Garcia. Pepe dans le chat ? Ou j'ai raté un truc ? Ça parle de quoi ? Ah bah oui, Pépé est là. Coucou Pépé ! Comment tu vas Pépé ? Content que tu sois là ? Je sais pas quand est-ce que tu repasses à la rédaction Pépé, mais c'est vrai que ça fait longtemps que moi je t'ai pas vu. Je sais qu'Arnaud t'a vu plus récemment. Mais ça me ferait plaisir de te revoir. Oui pardon, désolé, j'ai eu un petit bug, vite, double dose de caféine, j'en ai besoin. Moi aussi, je suis très content de te voir, Pépé. Alors, reprenons, astucieux. Après, ça c'est classique, hein, mais du genre, vous commencez à regarder une vidéo sur l'écran externe, vous dépliez, la vidéo passe directement sur l'écran interne. Et ça, en fait, c'est toutes les frictions qu'on pourrait avoir qui sont supprimées logiciellement et qui apportent un intérêt encore plus grand au smartphone pliable, et c'est ultra important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aussi très 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 hâte de voir ce qu'Apple pourrait faire sur un smartphone pliable, juste pas tant pour la partie technique et technologique du smartphone, mais plus vraiment pour la partie logicielle de ce qu'ils peuvent apporter sur les usages. Et encore une fois, c'est, pour moi, c'est très très important, et c'est ça qui va faire que les smartphones pliables vont se populariser ou non, ou rester un gadget de niche pour les technophiles. Déjà, l'écran large de devant, c'est top. Ouais, carrément. Le fait d'avoir un véritable écran devant et pas quelque chose qui soit un petit peu trop serré, c'est vraiment cool. Et la question qu'il faut se poser, vraiment, c'est sur l'avenir de cette lignée Galaxy Fold, et Omar se la pose ici. Je n'ai pas grand-chose à dire sur l'appareil photo. Ça, de toute façon, ils ont repris ce qu'il y avait sur le Pixel 7 Pro. La puissance ou la batterie, ça c'est pareil, donc la puissance c'est pareil que sur le Pixel 7 Pro, c'est du Tensor G2 avec 8 ou 16 Go de RAM, 8 je crois. Et sur la batterie, de toute façon, il faudra faire un test complet pour savoir ce que ça donne. C'est pas avec une prise en main de quelques minutes, voire quelques heures, qu'on peut s'en rendre compte. En revanche, on peut s'attarder sur l'importance que peut revêtir le lancement du Google Pixel Fold. Cher et disponible dans une poignée de pays, ce smartphone ne se vendra presque pas. C'est une quasi-certitude. Cependant, il envoie plusieurs messages très importants. D'une part, c'est un modèle vitrine, affichant le savoir-faire de Google, le constructeur. En termes d'image de marque, c'est toujours bon à prendre. C'est pas le plus important, mais effectivement, pour Google, ça fait un petit truc. Vu qu'ils arrivent après Samsung, après Oppo, après Honor, pas sûr que ce soit vraiment un truc extraordinaire, mais au moins il est là, ça a le mérite d'être là dans le catalogue de Google, pour Google. Après, pour nous, il y a d'autres trucs qui sont plus importants. D'autre part, et sans doute la partie la plus importante, on est tout le temps d'accord avec Omar, c'est trop bien. Google, le développeur d'Android, montre qu'il croit fort en l'avenir des smartphones pliants, de quoi assurer les fabricants exploitant les systèmes d'exploitation et les développeurs d'applications. Alors oui et non, parce qu'il croyait très fort à Stadia aussi, et je finirai pas certains argumentaires, je vous laisse finir pour moi. Les premiers peuvent ainsi continuer à plancher sur des smartphones du même acabit en sachant que l'OS devrait suivre. Ça, c'est quand même plutôt vrai, parce que Stadia était tout seul là où l'Android, c'est pas uniquement Google, et donc si demain ils décident que le Pixel Fold, ils s'en foutent et ils font pas de deuxième génération, y a quand même Samsung, il y a quand même Oppo, il y a quand même Honor, il y a quand même pas mal de constructeurs derrière qui continuent à faire perdurer ce format, et donc Google continuera de travailler dessus. Les seconds sont ainsi incités à réfléchir à des optimisations et des usages spécifiques pour leurs apps. Et ça, c'est aussi très important, c'est qu'il faut que les applications s'adaptent à ces formats. Et le fait que Google ait présenté conjointement la tablette et le Fold, c'est pas anodin là-dessus. C'est que, en fait, ils annoncent aux développeurs, parce que ce que dit Omar, c'est des annonces aux constructeurs, mais les annonces aux développeurs sont plus importantes encore, parce que ce qui fait la force de l'iPad, c'est pas tant l'iPad en lui-même, c'est pas tant sa puissance, même si c'est un monstre de puissance, c'est la rapidité à laquelle tous les développeurs d'applications ont adapté leurs applications pour le format iPad, avec vraiment non seulement la fluidité, mais aussi vraiment l'usage du grand écran qui fait repenser l'usage de certaines applications. Sur une messagerie, par exemple, on ne va pas vous afficher juste la messagerie sur un grand écran, ça a pas trop de sens. Donc vous aurez votre liste de contacts à gauche et la messagerie à droite, par exemple. Ce qu'on ne peut pas faire sur un téléphone traditionnel de 16 à 18 neuvième. À part Instagram qui a mis très longtemps, je crois que c'est toujours pas prévu sur iPad, le fait d'avoir un écosystème d'applications qui sont vraiment pensées pour ce format, c'est ce qui a fait que l'iPad a vraiment marché, contrairement aux tablettes Android, où pendant très longtemps, en fait, les applications iPad et tablettes étaient vraiment, vraiment pas folles. Et c'est très, très important, en fait, pour l'expérience utilisateur. C'est ça qui fait vraiment la force du truc. Et le fait que Google directement sortent et une tablette et un smartphone pliable, je pense que ça va vraiment pousser les développeurs Android à se pencher sur la question des grands écrans de ce format-là, à l'horizontale. J'ai un peu du mal avec le concept de fabriquer des smartphones alors qu'on sait que ça ne va pas se vendre. Pour l'environnement, c'est pas top. Alors, en vrai, s'ils sont pas conçus, enfin, si le fait qu'ils soient conçus et le fait qu'ils soient fabriqués, c'est différent. On se souvient d'Onécombe. Ouais, bah, clairement. Donc, pour ceux qui sont trop jeunes, Onécombe, c'est la version 3.0 d'Android, qui était une version exclusivement dédiée aux tablettes. On avait Android 2.4, je crois, pour les smartphones, en parallèle de Android 3.0 pour les tablettes. Après, c'est à partir d'Android 4 où ils ont réuni les deux. Et ça a été en fait un échec total. Ça servait pas à grand chose. Et oui, juste concevoir le smartphone, finalement, ça fait pas, c'est pas horrible pour l'environnement. Le seul truc à la limite qui fait que c'est pas top, ce serait d'en produire beaucoup et de pas les vendre, ce serait des déchets, et la ligne de production à la limite, mais c'est pas énorme non plus. Et derrière, il y a pas mal de réutilisation. Donc, moi j'ai commencé avec 2.3 Gingerbread. Moi j'ai commencé, c'était avec Frozen Yogurt, si je dis pas de bêtises. C'était la version 2.2. Oui, donc du coup, s'ils arrivent à tous les vendre, c'est pas trop un problème, je pense, pour l'environnement. Si bien sûr, ils sont utilisés et pas jetés. Et c'est pour ça que les mises à jour sont importantes, parce que beaucoup de gens sont attachés aux mises à jour. Enfin, on espère qu'après cette génération qui permettra de recueillir quelques précieux retours d'expérience, Google osera se lancer à plus grande échelle, et notamment en France. Effectivement, donc vivement le Pixel Fold 2, le meilleur Android 4.4 pour le partenariat avec KitKat. Ouais, clairement, juste pour le jeu de mots, ils avaient fait fort. Voilà pour le Pixel Fold. Ça fait, j'ai passé pas mal de temps à discuter de tout ça, mais il y avait beaucoup de choses à dire, je trouve, sur le Pixel Fold. Est-ce que ça change vraiment sur l'écosystème Android? Et je vous avais dit que je voulais vous parler de Bard aussi. Par contre, j'ai vraiment, alors pas tant de Bard que de ce que ça apporte sur la recherche. Je sais pas si, parce que Google a fait beaucoup d'annonces sur l'intelligence artificielle. Ah oui, bah ça, il y a ça aussi qui est cool, le fait que Find My Device maintenant ça puisse déjà détecter les trackers qu'on vous aurait foutu dans votre sac par exemple, et que ce soit beaucoup plus simple de retrouver vos appareils avec la nouvelle interface, c'est plutôt cool, le fait qu'il copie sur Apple à ce niveau-là. Parce qu'il faut savoir que les iPhones font partie des smartphones, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'ils sont chers, font partie des iPhones, des téléphones qui se volent le moins, justement, parce que les voleurs savent que ils peuvent être bloqués et à distance et retrouvés très facilement. Après, il y a toujours façon de, il y en a toujours qui arrivent à se débrouiller, mais. Mais voilà, j'ai commencé avec Cupcake. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Bard et l'intelligence artificielle, il y a plein de trucs à dire. Je suis en train d'utiliser Bard et il a corrigé mon erreur de code, merci. Clairement, pour les développeurs, toutes les intelligences artificielles, là, ça va beaucoup aider. Et je voulais voir, alors bon, évidemment dans Workspace, hein, ils ont rajouté dans Gmail, dans Google Docs, dans Google Sheets et Google Slides, tout plein de trucs d'intelligence artificielle à ChatGPT, genre là vraiment c'est écris-moi une offre d'embauche pour un level job description, écris-moi une offre d'embauche pour un job de développeur informatique senior. Cliquez sur un bouton, en 7 mots, vous avez directement 180 pays, mais pas la France. Ouais, non, il y a Heisenberg, là, j'ai vraiment les boules aussi. C'est vraiment, Google n'aime pas la France. Vraiment, ils n'avaient pas envie, là. Le Fold, il sort pas chez nous, Bard sort pas chez nous, alors que 180 pays, quoi. ils abusent. Bref, donc bon, ça c'est du chat GPT, j'ai envie de dire, donc il n'y a rien de très très nouveau, si ce n'est que bah, c'est intégré dans Google. Il y a les générations d'images aussi, avec Adobe Firefly, donc vraiment à la, là pour le coup c'est plus à la mid-journée, hop, donc j'ai hâte de pouvoir l'essayer aussi, mais c'est au niveau de la recherche. Est-ce qu'on a fait un article sur la recherche? Ah voilà, c'est celui-là. Il y a pas mal de choses à dire. Bard pas en Allemagne, en Autriche non plus, à skip. 1 point Batix, 1.5. C'était laquelle 1.5? Je me rappelle plus. Cupcake. Ah, je l'avais utilisé celui-là. Donc parlons de Bard qui rattrape son retard sur Bing, parce que c'est vrai que là depuis le début de l'année c'est un peu la guerre, enfin c'est un peu beaucoup la guerre à l'intelligence artificielle et surtout à la recherche avec intelligence artificielle, et ça fait des années que les moteurs de recherche, notamment Google, a imposé sa présence en tant que moteur de recherche quasi hégémonique, enfin totalement hégémonique. Alors certes il y en a quelques-uns qui essayent d'avancer typiquement le côté vie privée avec DuckDuckGo ou Quant, ou Bing qui veut juste proposer une alternative, mais Google reste vraiment implanté, et l'arrivée des IA génératives comme ChatGPT et le ChatGPT de Bing, ça va un peu rebattre les cartes. Et le fait que Microsoft arrive et n'ait pas grand chose à perdre, alors que Google a tout à perdre, en fait, ils font c'est vraiment un monstre la recherche dans leur économie, et ils ont besoin de ça. Toutes les pubs qu'il y a dans le moteur de recherche, c'est plus de 50% de leurs revenus, donc c'est très important. Et si demain Bing devient le moteur de recherche principal de tout le monde à la place de Google, ça risque de poser de sérieux problèmes à Google. Donc là, ils s'étaient mis, on le savait, en alerte rouge en début d'année, et ils ont bossé pour proposer une riposte à ce qu'a annoncé Microsoft avec Bing en début d'année. Et je dois avouer que j'ai été très convaincu, et surtout plus qu'avec Bing. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est important. La différence est peut-être pas énorme, mais pour moi c'est ça qui va faire vraiment la différence. C'est au niveau des sources. Mais on va déjà lire l'article, et comme ça on pourra en parler, mais pas trop non plus, parce qu'il me reste 10 minutes de stream. Alors, Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité expérimentale pour son moteur de recherche. Désormais, les utilisateurs pourront interagir directement avec une IA. Voilà, donc là, on peut demander directement. Alors ça, c'est marrant. En plus, on peut lui demander de nous challenger sur un point. Donc là, par exemple, lui demander un quiz sur la signalétique vélo en Californie. Ouais, je trouve ça marrant. Alors, l'IA est décidément au centre des annonces de Google pour cette conférence Google I.O. 2023. Ça, on l'a vu 149 fois, hein, je crois, tu disais. C'est assez impressionnant le nombre de fois où ils ont prononcé le mot IA. La firme a notamment annoncé des nouveautés concernant son moteur de recherche. Plus important, à l'instar de ce que propose déjà Bing en partenariat avec OpenAI, Google a intégré des éléments d'IA générative dans son moteur de recherche Google.com. Concrètement, la firme a ainsi annoncé que les utilisateurs pourraient prochainement taper directement des questions dans le moteur de recherche afin que paraissent en tête des réponses, une réponse complète générée directement. Cet encart sera affiché dans un cadre coloré spécifique, bleu ou vert, afin de se distinguer des recherches classiques. Qu'il s'agisse de la recherche web globale ou de la recherche sur Google Shopping. Typiquement, ils nous ont montré un exemple avec des vélos qui n'est pas là. Ça, c'est vraiment de la génération. Voilà, c'est pas vraiment une question. Il y a une des questions que j'avais trouvé intéressante, c'était quel est le mieux pour des vacances entre Paris et le Touquet, vous avez 3 enfants et un chien. Et derrière, c'est une question complexe du coup. Et ça, pour le coup, ça peut pas être répondu avec Google simplement. Il faut faire plusieurs recherches. Bon, ça c'est du ChatGPT, c'est juste en fait, si on cherche des plantes pour une pièce sombre, si vous cherchez ça sur Google, vous allez pouvoir retrouver plus ou moins la même chose. Mais le fait d'avoir vraiment plusieurs éléments dans la question, c'est très 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 révolutionnaire je trouve, dans la façon de voir la recherche. Et du coup, c'est tout ce qui est multimodal. Et Google bosse beaucoup dessus, avec notamment la possibilité de faire des photos via Lens. Mais on en reviendra, je pense qu'on y reviendra. Je pense qu'il y a des points. Non, même pas sûr. Qu'il s'agisse de la recherche web globale ou de la recherche Google Shopping. Par ailleurs, Google précise sur cet encart que l'IA générative est expérimentale, afin de prévenir que des erreurs potentielles peuvent s'afficher. Tout comme Bing, Google affiche également quelques pages pertinentes sur lesquelles le moteur de recherche s'est basé pour proposer sa réponse. Et ça, c'est important, c'est que, en fait, il y a les sources, mais les sources sur Bing, elles sont en tout petit. Alors que là, en fait, c'est limite ce qui saute le plus aux yeux, en fait, les trois sites qui sont sur le côté. On a nos réponses, on a des sites, voilà, en fait, là, on a 1, 2, 3, 4, 5 réponses avec les plantes. Alors certes, il y a le show more qui devrait permettre d'en voir plus. On a aussi les résultats classiques sous forme de sites qu'on peut avoir sur Google aujourd'hui en dessous. Ça prend pas vraiment toute la page. Et le fait d'avoir les trois sur le côté, je trouve que c'est vraiment bien, parce que ça donne envie, en fait, de cliquer. Et comme le modèle économique des sites passe beaucoup par ce qu'on appelle le SEO, c'est la recherche, en fait, de la première place sur des requêtes Google, c'est important que ça détruise pas ça, parce que, en fait, s'ils détruisent ça, et je pense que la manière dont Bing le fait, ça donne pas envie d'aller sur les sites sources. Si on détruit totalement le modèle économique de tous les sites, ça va être très difficile d'avoir du contenu pour nourrir justement les intelligences artificielles génératives. Un truc tout bête, mais Microsoft avait présenté avec Bing un truc qui était quelle est la meilleure télé pour jouer aux jeux vidéo. Nous, on a un guide d'achat là-dessus. On l'a travaillé, on a testé plein de télés, on a plein de critères qui sont importants là-dessus, et on en a fait un guide d'achat. Et ce guide d'achat permet, entre autres, grâce à l'affiliation et aux lectures de ce guide d'achat, de rémunérer tout le travail des personnes qui ont testé les téléviseurs, qui ont une expertise, etc. Je dis pas que le SEO est mort, hein, attention Guillaume. Je dis juste que la manière dont l'a présenté Microsoft avec Bing, ça met plus en avant les sources, ça met en avant le contenu. Et un moteur de recherche qui donne la réponse sans te mettre vraiment en avant le site, ça risque de faire mourir ce site qui pourra plus créer le contenu. Et du coup, comment Bing va aller chercher les informations s'il va pas lire... ça va réduire... Un web comme ça, un moteur de recherche comme ça, ça risque de réduire considérablement le web et de se retrouver avec quelques gros médias qui auront encore la possibilité de le faire et de le payer, et plein de médias qui feront de la merde pour pouvoir s'ils volent l'information, en effet. Après, ça, c'est une grande question, tout ce qui est le droit voisin sur Google. Enfin, genre, typiquement, si on cherche je sais pas, meilleur smartphone, tiens, est-ce que... Non. Mais, par exemple, ça. Quel est le meilleur smartphone en ce moment? Et bien là, il y a, en fait, une réponse. Quelqu'un qui cherche vraiment juste le meilleur smartphone, il va se dire, mais qui n'a pas forcément envie de l'acheter tout de suite, ah bah ok, Galaxy S23 Ultra. Et si net, en fait, pas besoin de cliquer. Là, j'ai la réponse ici. C'est S23 Ultra et l'iPhone 14 Pro. C'est bon, ça me suffit. En plus, il y a même les étoiles et tout. Et ça, donc, c'est ce qu'on appelle le droit voisin, c'est la réutilisation du contenu dans le moteur de recherche. C'est un rich snippet Google. Oui, c'est le snippet sur les questions, sur les also ask. Mais sinon, des fois, vous voyez genre tout en haut, avant votre recherche, des fois, vous avez un petit résultat sur un truc de Wikipédia, genre typiquement... Âge Macron. Hop, je sais pas. Âge Macron. Voilà, là, il n'y a même pas besoin de finir la recherche. On sait déjà qu'il a 45 ans. Hop. Et ça, cette information, je suis pas sûr que Google l'ait de base. Enfin, si, ils doivent l'avoir vu que c'est directement là-dedans. Mais en fait, ça vient de sites comme Wikipédia. Et du coup, ce que le grand public attend avec l'intégration avec Google Assistant, la recherche vocale. Oui, clairement. Si on tape russe sur la lune, ça sort Yuri Gagarin, je crois. Oui. Bon, là, en tout cas, on a déjà un exemple. Mais voilà, du coup, c'est important de penser aussi à tout l'écosystème qu'il y a derrière. Il va falloir refaire le site et tous vos textes en images, comme ça, ils ne pourraient pas lire l'information. Alors ça, c'est marrant, parce que typiquement, le web chinois est comme ça. Comme ils n'ont pas de Google, une grande partie des informations et des sites chinois, c'est des images. Il n'y a pas de texte. On ne peut pas sélectionner. Ce qui est très très chiant pour nous autres journalistes étrangers, étrangers pour eux, qui lisons leur site, on ne peut pas Google Trad facilement. On le voit bien chez les pubs Xiaomi. Macron n'a que 4 ans de plus que moi, il a l'air d'avoir 10 ans de plus. Ah ouais, bah ça vieillit d'être de droite. Il va falloir refaire le site et tous vos textes. Ah oui, non, ça j'ai lu. Gros problème de droit d'auteur, dommage pour Wikipédia. Après Wikipédia, ils s'en foutent, hein. C'est pas, eux ils cherchent pas du trafic. Ils ont pas de pub, je crois, en plus. Via Google Trad, ça passe bien. Moi j'utilise Google Trad via Google Lens, du coup. Donc Wikipédia ils s'en foutent, mais il y a des sites qui reposent beaucoup là-dessus. Enfin, typiquement nous on repose beaucoup sur la recherche Google. Je vais finir vite fait l'article. L'IA intégrée à la recherche Google va également permettre aux utilisateurs de passer en mode conversationnel. Concrètement, si l'utilisateur n'est pas satisfait par une réponse ou s'il veut davantage de précision, il pourra le demander dans ce mode afin d'en savoir plus sur un aspect spécifique. Ce qu'ils ont donné comme exemple, c'était je cherche le meilleur vélo électrique pour des trajets de 5 km avec des montées. Il sort une liste de vélos et derrière, l'utilisateur de préciser je veux un vélo rouge. Et il fait le tri et il file. Il y a eu des annonces Google Lens hier. J'ai un doute, je crois plus. Ils n'ont pas trop parlé de Google Lens. Mais aussi Google Lens qui pourra générer du texte lié à une photo. Oui, c'est ça. Je savais bien qu'ils avaient fait un truc quand même. Ils n'ont pas dit grand chose sur Google Lens. Ils ont juste montré l'intégration du chat GPT dans Google Lens, grosso modo, avec de la génération d'images. Genre, tu prends une image de ton chien et tu lui dis, fais-moi une description de la photo ou un truc pour mettre sur Instagram et il va te sortir du texte. Et d'ailleurs c'était mignon, ils ont sorti un texte, c'était un truc du genre c'est qui le good boy. Enfin bref, voilà. On adore les dogos ici. D'ailleurs, vu le niveau de détection de la voix de Google, la conversation avec GPT Bard pourrait être top. En fait, le problème qu'ils ont actuellement, c'est que une recherche comme ça d'intelligence artificielle sur ChatGPT, ça leur coûte énormément plus qu'une simple recherche textuelle ou vocale avec votre assistant Google, parce qu'il utilise le même moteur de recherche finalement, et après juste il va vocaliser la réponse. Donc avoir un côté conversationnel avec son Google Home, alors 100% ça va finir comme ça, hein. Mais aujourd'hui ce serait vraiment un gouffre financier pour eux. Donc ça n'arrivera pas tout de suite. Ce qui fait du coup un côté un peu bipolaire ou je sais pas quoi, enfin non pas bipolaire mais non, en plus j'aime pas parler comme ça de maladies, mais dissonance entre du coup cette volonté d'améliorer de l'IA, de faire de l'IA conversationnelle, textuelle du coup sur les moteurs de recherche etc, et d'avoir, oui aussi incohérent effectivement, et d'avoir à côté Google Assistant qui est totalement à côté de la plaque, à qui on pose des questions et d'un coup il allume la lumière parce qu'il a rien compris. Enfin vraiment, des fois avec mon Google Home, je me tape la tête contre les murs. En plus, depuis l'année dernière, il est super lent. C'est vraiment très 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 frustrant. Alors, sinon, j'avais pas vu qu'il y a eu pas mal de follow, il y en a eu 3 en tout cas. Merci Gandhi Warhol, merci The Manopoc et merci Obino d'avoir follow la chaîne. N'hésitez pas évidemment à nous suivre pour voir tous nos lives, on en fait plein. Concrètement, si l'utilisateur n'est pas dans ça, je l'ai déjà dit, Google a annoncé que ses fonctionnalités de recherche par IA seront intégrées dans Search Labs dès les prochaines semaines, mais uniquement aux États-Unis. Pour l'heure, cette fonctionnalité n'est pas annoncée pour le marché français. Comme d'habitude, on en a marre. Voilà, donc en fait, il y a pas mal de choses à voir, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de voir que Google a vraiment rattrapé son retard par rapport à Bing. Enfin Microsoft, très rapidement, en quelques mois seulement, quelques semaines même, ils ont réussi à proposer une alternative qui a l'air vraiment très chouette. Pour le coup, ils ont repris ce qui faisait la force de ChatGPT et de ChatGPT intégré à Bing, et ils l'ont amélioré. En plus, c'est beau, je trouve, la manière dont c'est présenté avec ce matériel design en carte, etc. Je trouve que c'est bien fait. Ça met en valeur les sources. Typiquement, là, on voit Science, NASA et le dernier, study.com. Avec le petit favicon qui montre un petit peu, enfin qui met en avant, qui accroche plus l'œil que les simples petites sources écrites en bas des réponses Bing. Donc moi je suis vraiment curieux de voir comment ça va arriver. Les rumeurs disaient que Google Assistant Bard serait dispo en widget, mais j'ai rien vu hier. Non, effectivement. Pardon, mais c'est vrai que c'est bien de pointer les possibles problèmes qui sont invisibles pour moi comme pour le grand public. On vient de me rendre compte que ce n'est pas un faux problème, je corrige ce que j'ai dit. Pardon, j'avais pas vu le message du dessus. Si je conseille à mon voisin le smartphone que j'ai vu sur un site sans en citer la source, c'est semblable. Si nous sommes 150 à suivre le live plutôt que d'aller sur votre site, c'est semblable. Je pense que c'est un faux problème, car en effet, si je cherche vraiment, je vais croiser les sources et pas seulement ChatGPT. Ce n'est que mon avis personnel et ma façon de voir les choses. En tout cas, il faudra encadrer tout ça et faire avec. Il y a des différences, en fait, à ce niveau-là, dans le sens où il faut voir que Google, de par le fait qu'ils ont Google Chrome, et donc qui est le navigateur le plus utilisé au monde, et Google.com, qui est le moteur de recherche le plus utilisé au monde, ils ont créé leur propre standard. En fait, c'est eux qui ont façonné le web des dix dernières années. C'est en fait, les développeurs n'ont plus le choix que de faire du contenu qui est, et pas que les développeurs d'ailleurs, les sites, puisque le contenu des sites compte aussi, il faut que les sites soient adaptés à ce que veut Google. Et du coup, Google a une force énorme de vie et de mort sur plein de sites. Si demain, Google décide de nous déréférencer, je pense qu'on met la clé sous la porte. On pourra plus survivre. C'est parce qu'on a une grosse partie de notre trafic qui vient de Google. Google Search est le moteur de recherche par défaut de Chrome et était celui de Android. Alors maintenant, quand on lance les applications, on a le choix. Ils ont été obligés de, en Europe en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais ils ont été obligés de proposer un choix au lancement. Ça devrait changer grâce au DMA à entrer en vigueur depuis le 2 mai. Bah, c'est déjà le cas, Guillaume. Depuis un an ou deux, je crois. La France, l'Europe ont beaucoup de règles, c'est pour ça qu'on est en retard, et c'est pas plus mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah en fait, le problème avec tout ça, avec toutes ces règles... Ah, mais il est déjà 11h06. Il est déjà 11h06, donc je vais pas tarder. Je vais juste regarder qui est sur Twitch pour pouvoir vous envoyer faire un raid. J'avais pas vu l'heure, oh là là. Alors, est-ce qu'on va... Mais il y a Mademoiselle. Il y a Mademoiselle qui fait un unpacking. Ah, qui joue à unpacking. J'adore unpacking. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va vous envoyer raid. J'ai encore perdu ma souris. Hop, Mademoiselle. Je sais pas si vous avez essayé ce jeu. Il est disponible dans le Game Pass. Et le but du jeu, c'est juste de défaire des cartons. Mais en fait, avec ce simple élément de gameplay, ils ont réussi à faire un jeu qui est super profond, beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Voilà. Du coup, désolé, j'ai un peu coupé abruptement, mais il y avait énormément de choses à dire aujourd'hui avec la Google I/O. On n'a même pas regardé autre chose que la Google I/O. D'ailleurs, cet après-midi, il y a un nouveau stream. Donc, c'est un stream sponsorisé par Orange qui revient sur justement le lancement des Google Pixel 7a notamment, et vous aurez la possibilité d'en gagner sur le stream. Donc si le Pixel 7a vous intéresse, venez ce soir, je sais plus à quelle heure, c'est à 19-20h par là. Comme d'habitude, tous les matins à 9h30, vous pouvez retrouver la matinale tech où on parle de tech et de l'actualité. Et demain, on a encore deux autres gros streams. On a un stream autour de midi avec Guillaume pour vous parler d'un... Alors, je ne sais pas si c'est surprise ou pas. En tout cas, c'est un nouveau type de stream. Donc, demain à midi, avec Guillaume, et demain soir, toujours avec Guillaume, le live bon plan, vous avez l'habitude, maintenant c'est tous les vendredis soirs, donc on a plein de... Et ce soir, oui, bah ce soir du coup, pour gagner les Pixel 7, live sponsorisé par Orange, ne ratez pas ça. Voilà, voilà, je vous lance en raid chez Mademoiselle, et allez dire bonjour à Inès. Et mince. Oh mince, j'ai oublié son prénom. Oups, bah lui dites pas. Mais dites-leur bonjour. Et faites-leur des bisous. Soyez gentils avec elle. Ciao, ciao. Alors, je lance le raid. Et on envoie du monde. C'est parti. Encore 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. On y va, on y va, on y va. Tout le monde pour le raid. Moi, je vous souhaite une très bonne après-midi, un très bon appétit, évidemment, si vous allez manger dans pas longtemps. Et à très bientôt, peut-être la semaine prochaine, je sais plus si j'ai un live la semaine prochaine, comme c'est une semaine de 4 jours, enfin 3 jours. Oui, j'ai fait le pont, je fais le pont. Je sais pas s'il y aura, si je passerai, mais sinon, la semaine suivante. Salut, à plus tout le monde.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.